Radio Prague, les informations.
Le budget du service de renseignement tchèque pour l'année prochaine sera réduit. Le Premier ministre de la République de Serbie, Mirko Cvetković, a effectué ce lundi une visite à Prague. Une équipe de chercheurs a ouvert la tombe de l'astronome Tycho Brahe dans l'église de la Vierge de Tyn au centre de Prague. L'année prochaine, le budget du service de renseignement civil tchèque, BIS, sera réduit de 75 millions de couronnes, soit environ 3 millions d'euros. Une déclaration pour le journal Lidové noviny de l'attaché du presse du BIS, Jan Schubert. Une réduction du personnel et des salaires des employés est prévue. L'opposition considère ces démarches comme dangereuses pour la sécurité de l'État. D'après Jeronim Tate du Parti social-démocrate, ce serait une décision hasardeuse qui nuit à la sécurité de l'État, le BIS jouant, selon lui, un rôle irremplaçable dans la prévention des actes terroristes. Comme annoncé ce lundi par le ministre des Transports, Vít Bárta, les chemins de fer tchèques, České dráhy, devront économiser l'année prochaine quelque 900 millions de couronnes. Parallèlement, la société se verra réduire de 500 millions de couronnes les subventions octroyées par le ministère. Le ministre a affirmé que ces mesures de restriction ne devraient pas être ressenties par les voyageurs. Le ministère des Transports compte en revanche soutenir davantage le transport ferroviaire des marchandises. Alors que le péage sur les autoroutes deviendra plus cher au cours des deux prochaines années, les taxes pour le transport ferroviaire des marchandises sont à la baisse. Les entreprises devraient profiter de cette opportunité, a déclaré le ministre Bárta. Rappelons que cette année, les chemins de fer tchèques ont licencié près de 1600 personnes. Un millier d'employés devront quitter leur poste l'année prochaine. Le Premier ministre de la République de Serbie, Mirko Cvetković, a effectué ce lundi une visite à Prague. Il a rencontré le président Václav Klaus ainsi que son homologue tchèque Petr Nečas. La coopération économique et la perspective européenne de la Serbie ont été les principaux thèmes de leurs échanges de vues. La République tchèque est prête à apporter son aide à la Serbie au cours du processus d'intégration européenne, a déclaré le chef du gouvernement Petr Nečas. Il s'agit plus précisément des stages pour des diplomates, un échange d'informations ou encore une assistance relative à l'utilisation des fonds européens. Rappelons que la Serbie avait déposé sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne en 2009. L'avis de la Commission européenne sur le dossier serbe ne sera connu qu'au second semestre de 2011. Une équipe de chercheurs tchèques et danois a ouvert la tombe de l'astronome, astrologue et alchimiste danois Tycho Brahe dans l'église de la Vierge de Tyn à Prague. La dépouille de l'astronome ayant vécu entre 1546 et 1601 sera désormais examinée par des spécialistes du laboratoire anthropologique du Musée national de Prague. Nous vous en dirons plus tout de suite dans Fais événements en République tchèque. Côté météo, mardi, jour de fête des Otmar en République tchèque, le temps sera couvert avec localement de faibles pluies. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés. Le bulletin d'information vous a été présenté par Magdalena Hrozinkova. Tout de suite, Fais événements avec Alexis Rosenzweig.
Fais événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de notre premier programme de la semaine, un programme en français que nous entamerons avec l'exhumation à Prague de la dépouille de l'illustre astronome danois Tycho Brahe. Pourquoi cette exhumation plus de 400 ans après sa mort? Vous en saurez plus dans un instant, ce sera avec Václav Richter. Et ce sera juste avant de parler culture et plus précisément peinture avec une exposition à Prague des œuvres de Babi Badalov, un artiste originaire d'Azerbaïdjan, demandeur d'asile en France. Après cela, ce sera comme chaque début de semaine, la rubrique sportive préparée par Guillaume Narguet. Et nous terminerons en musique avec le groupe Spiritual Quintet qui vient de fêter son 50e anniversaire. Je vous souhaite une très bonne et agréable écoute de ce programme où que vous soyez dans le monde. Une équipe de chercheurs danois et tchèques a donc ouvert ce lundi la tombe de l'astronome Tycho Brahe sous les dalles de l'église de la Vierge de Tyn à Prague, dans le centre de la capitale tchèque. Leur objectif est d'examiner la dépouille mortelle du célèbre astronome du XVIe siècle et de parvenir ainsi à élucider les circonstances de sa mort qui fait toujours plus de 400 ans après l'objet de diverses spéculations. Plus de détails avec Václav Richter.
La vie de Tycho Brahe illustre le respect et la vénération dont jouissaient l'astrologie et l'astronomie au XVIe siècle. Fils d'une famille noble et aisée, il peut se consacrer aux études de l'astronomie et de l'alchimie et voyager en Europe. Grâce à son principal mécène, le roi Frédéric II du Danemark, il construit des laboratoires et des observatoires et devient un des astronomes les plus recherchés de son temps. Sans lunettes et sans télescope, il établit un catalogue d'étoiles précis pour son époque et crée un modèle cosmogonique qui est un compromis entre le système géocentrique de Ptolémée et la conception héliocentrique de Copernic. Après la mort de son mécène royal, Tycho Brahe est invité en 1599 à Prague pour devenir astrologue et mathématicien de l'empereur Rodolphe II. C'est aussi à Prague qu'il meurt en 1601, âgé de 55 ans. La légende veut qu'il soit victime d'une perforation de la vessie parce que, lors d'un banquet, l'étiquette de la cour impériale ne lui a pas permis de se soulager. Les spécialistes estiment cependant qu'il est décédé des suites d'une urémie et selon une théorie, il aurait même été empoisonné. Ce lundi donc, une équipe de chercheurs tchèques et danois a procédé à son exhumation. L'archéologue Zdeněk Dragon décrit le déroulement de cette opération.
Les tailleurs de pierre et restaurateurs lèvent la dalle funéraire sous laquelle nous nous attendons à trouver une voûte de la tombe qui a été ouverte pour la dernière fois en 1901. Nous allons y creuser d'abord un trou pour y faire passer une caméra. Cela nous permettra d'examiner la voûte et de trouver l'endroit où elle pourra être percée sans problème. Ainsi, nous pénétrerons jusqu'à la dépouille de Tycho Brahe déposée dans un petit cercueil fabriqué en 1901.
Le cercueil a été amené dans le laboratoire des anthropologues du musée national où il sera ouvert, la dépouille sera examinée et d'après Zdeněk Dragon, les chercheurs procéderont au prélèvement de tissus.
Il est évident que dans certains éléments de la dépouille mortelle de l'astronome enlevé de la tombe en 1901, l'analyse a démontré un taux élevé de mercure. Il s'agit donc de procéder à un examen par les moyens modernes de la tombe dans son ensemble et de déterminer à cette occasion par des analyses nucléaires, chimiques et autres ce qui est vraiment arrivé à Tycho Brahe.
Selon une théorie de l'historien danois Peter Andersen, l'astronome aurait été empoisonné sur ordre de Christian IV, nouveau roi du Danemark. En revanche, le professeur Bent Kempe de Copenhague considère comme plus probable que Tycho Brahe se soit empoisonné par les médicaments qu'il préparait lui-même pour soigner sa maladie. La dépouille de Tycho Brahe retrouvera le repos dans sa tombe de l'église de la Vierge de Tyn ce vendredi. À cette occasion, une messe sera célébrée par l'archevêque Dominique Duka, prima de l'église catholique tchèque.
On passe maintenant à la culture. La galerie Transit Display à Prague propose jusqu'au 16 janvier une exposition de l'artiste Babi Badalov. Pour évoquer son travail, Anna Kubišta s'est entretenue avec Vít Havranek, il est l'un des deux fondateurs de la galerie.
C'est un artiste azerbaïdjanais d'origine et il faut dire que dans certains contextes ou dans certains cas, l'autobiographie de l'artiste est importante, dans certains cas, elle n'est pas très importante. Dans son cas, il est assez important parce que sa vie fait une partie de son œuvre, alors c'est important de savoir d'où il vient. Et il est nomade, alors d'où il vient, d'où il a commencé sa vie, et c'est important pour son œuvre aussi. Mm-hmm.
Alors oui, il faut justement dire que Babi Badalov ne peut pas être ici aujourd'hui parce que il attend en fait d'obtenir l'asile en France. Et c'est justement un peu cette situation qu'il décrit en tout cas dans ses œuvres, une partie des œuvres que vous exposez ici à Transit Display.
Voilà, c'est ça un petit peu l'histoire des œuvres qu'il montre ici parce que c'est soi-disant son journal intime mais en même temps son journal assez public de sa vie en France où il est demandeur de l'asile politique. Et il faut dire qu'il était demandeur de l'asile politique avant en Royaume-Uni. Et il était répulsé parce qu'il a pris parti dans une démonstration où il y avait des gens qui ont détruit quelque chose. Il n'a pas détruit, mais il était pris par la police et du coup il était renvoyé comme demandeur de l'asile de Royaume-Uni. Alors depuis des années en fait, il cherche un asile politique, mais pour des raisons différentes, il peut pas trouver.
Alors là, visiblement, ça fait 2 ans qu'il l'attend en France. Ces 2 ans, en fait, on les retrouve donc dans cette exposition. Est-ce que vous pourriez simplement nous décrire, pour les personnes qui peuvent pas voir, puisque c'est difficile en plus à la radio de voir, nous décrire quels sont ces objets, enfin c'est pas des objets, c'est des feuilles qui sont exposées.
C'est une étude un petit peu sociopolitique, je dirais, parce que il y a à peu près 200 copies ou 200 papiers dans le format A4. Et d'un côté du papier, il y a toujours une lettre, soi-disant une lettre publique ou officielle qui est adressée à lui ou un document officiel qui est lié avec son statut d'un demandeur d'asile, mais c'est un truc qui est bien sûr personnel, mais en même temps c'est officiel, ce sont toujours des courriers ou des prescriptions de l'hôpital et tout ça. Et de l'autre côté, ce sont des collages, des images qu'il a trouvées dans les rues. Comme quelqu'un qui vit tout le temps plus ou moins dans les rues, il a conçu ça. D'un côté, vous avez un document soi-disant politique ou pas politique, public, et de l'autre côté, c'est quelque chose qui est intime, mais en même temps aussi un peu pas seulement intime, parce qu'il n'a pas un atelier, il peut pas travailler vraiment comme un artiste, alors il doit toujours travailler entre la rue et son appartement.
C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette exposition est un peu finalement le reflet de la précarité dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que par exemple, il ne peut pas exposer des œuvres plus grandes, il faut que ce soit un certain format, parce que il ne peut pas par exemple mettre une œuvre sur tout un mur, par exemple, c'est pas possible.
Ouais, ouais. Et en fait, c'est sa situation depuis plus ou moins 10 ans, parce que d'abord, il est parti d'Azerbaïdjan justement pour des raisons politiques, il est parti à Moscou, de Moscou il est parti à Londres, de Londres à Paris, et toujours depuis 10 ans ou 12 ans il est nomade comme ça, et en même temps il ne veut pas faire pitié aux gens. Comme ça, c'est pas simplement la réalité de faire pitié seulement, mais c'est juste c'est la seule possibilité comme il peut travailler, parce qu'il a pas, il peut pas transporter les choses par exemple. Il a pas aucune mémoire, des traces de mémoire du passé. Il peut pas les transporter parce qu'il est toujours en retrait ou en fuite de quelque part.
Pourquoi avez-vous choisi de l'exposer?
Ouais, parce que on aime beaucoup en fait ce qu'il fait comme dessin. Il dessine beaucoup et il fait des journaux de dessin. Et on aime beaucoup les journaux qui sont ici, qui sont montrés dans une petite publication comme ça, un petit journal. On a montré justement. Il travaille dans les cahiers comme ça qu'il peut transporter. Et on aime beaucoup ces dessins qui sont un petit peu oriental, ornemental, mais en même temps assez politique et en même temps il reflète la réalité des minorités ou
des réfugiés
ou ouais.
C'est une forme d'art engagé finalement, ça se fait plus trop ces temps-ci, parfois on a l'impression.
C'est assez engagé politique, mais en même temps c'est pas au premier degré, c'est toujours assez décoratif ce qu'il fait. D'ailleurs, il montre une œuvre assez importante à Paris maintenant dans une galerie au plateau. C'est le FRAC qui s'appelle le plateau à Paris, et il a pu réaliser là-bas une fresque sur le mur de, je sais pas, c'est grand, de 50 mètres carrés à peu près dans les murs.
C'était Vita Vranek de la galerie Transit Display à Prague, où sont actuellement exposées les œuvres de Babi Badalov. Et c'est déjà la fin de ces faits événements, mais le programme en français de Radio Prague se poursuit dans une poignée de secondes avec Guillaume Narguet, qui nous parlera cette semaine de quelque chose qui manque trop souvent malheureusement dans le sport moderne, le fair play.
Sport en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive consacrée cette semaine au fair play. Prague en a récemment été la capitale européenne. Pendant 3 jours, fin octobre, les représentants d'une trentaine de pays se sont en effet réunis dans la capitale tchèque à l'occasion du 16e congrès annuel du mouvement européen pour le fair play. Cette année, le thème de discussion retenu était l'éducation au fair play dans les écoles, une responsabilité partagée. Président du mouvement européen pour le fair play, le portugais Carlos Gonçalves en a dit plus au micro de Radio Prague.
Le mouvement européen pour le fair play, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée lors d'une assemblée générale constitutive composée de 14 pays qui sont en Suisse, au siège de la FIFA, à 1994, et qui a pour but la promotion et le développement des valeurs et des principes du fair play à tous les niveaux de pratique sportive. dès le sport pour les enfants jusqu'à le sport de haut niveau.
Concrètement, quelles sont les actions que vous menez afin de réaliser vos objectifs?
Nous sommes une organisation umbrella, comme UEFA au football. Alors, nous devons soutenir, appuyer toutes les actions et toutes les campagnes qui sont développées au niveau de chaque pays. Ce n'est pas notre affaire de faire le travail qui doit être fait au niveau national pour chaque organisation nationale du fair play. Pour le moment, je peux vous dire que nous avons 40 organisations nationales du fair play affiliées avec nous. Bon, au-delà de ça, toutes les années, nous promouvons un congrès annuel du fair play. C'est le cas de cette année ici à Prague. Et chaque année, nous discutons un sujet différent. Cette année, nous sommes ici pour discuter le thème éducation pour le fair play aux écoles, l'importance de cette éducation pour le mouvement sportif et la responsabilité partagée qui doit être attribuée à chacun des intervenants dans le mouvement sportif, des professeurs, dirigeants sportifs, entraîneurs, etc. Et la responsabilité des organisations, soit des organisations gouvernementales comme des organisations non gouvernementales, comme c'est le cas de notre association.
Également présente, la France était représentée à Prague par Christian Blaro, trésorier du mouvement européen pour le fair play.
Je suis effectivement le représentant français et demain matin, je voterai en tant que délégué à l'Assemblée générale pour la France et pour le comité olympique en particulier. Mais en réalité, je suis vice-président donc d'une association qui est basée donc au comité national français près du stade Charletti à la porte de Gentilly à Paris et qui s'appelle l'association donc contre la violence dans le sport et pour le fair play. Et la délégation donc du comité national olympique pour participer à ce type de congrès pour le développement et la promotion du fair play en Europe. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la France a été membre fondateur en 1994, comme l'a dit le président auparavant, lorsque ça s'est créé, et depuis nous n'avons pas quitté le système, et un petit peu comme la politique, la France et l'Allemagne sont les deux gros moteurs de cette association. Pour autant, donc, nous, on promeut les mêmes valeurs donc en France, c'est-à-dire respect des autres, soi-même, les règles, l'enseignement du fair play, et puis toutes les valeurs autour de l'éthique. Et on se retrouve après dans l'instance européenne où on fait le même travail.
Alors, vous en êtes cette fois au 16e congrès. Le thème cette année, c'est donc les écoles. Quels étaient les thèmes les années précédentes?
Alors, le chantier, il est vaste, quoi. C'est-à-dire qu'on a du travail sur le sujet, malheureusement, au vu des exactions, chaque année, on, presque à la limite, le sujet vient tout seul. Et puis, vous savez que nous, Français, on a été extrêmement meurtris par rapport à ce qui s'est passé cet été. Et quand je vois les interventions qui sont excellentes, moitié tchèque, moitié des pays étrangers qui sont présents, c'est sûr que l'affaire de l'Afrique du Sud revient dans les diaporamas, revient dans les discours, le comportement de notre sélectionneur de l'époque, etc. Bon, c'est douloureux pour moi français, mais à la limite, ça nous permet de balayer devant notre porte et de repartir de mieux en mieux. Bon, c'est sûr que à partir du moment où on est quand même dans un système qui défend le fair play, par rapport à ce qui s'est passé, on est en défaut et les étrangers, c'est pas qu'ils nous montrent du doigt, mais ils sont obligés de nous faire comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas bien, quoi. Et ça, on en est tous conscients en tant que citoyens français. Alors maintenant, pour répondre à votre question par rapport au congrès, donc chaque thème est défini par le bureau en concertation avec le pays qui accueille. Hein. Alors le pays qui accueille, en réalité, c'est le Comité national olympique qui accueille. Et après, soit il y a un thème qui est une spécificité par rapport au pays accueillant et sur quelque chose ils veulent mettre l'accent, ou alors c'est nous qui déterminons réellement le problème. Par exemple, l'année prochaine, nous serons en Croatie, à Porec, près de Zagreb, et le thème est déjà défini, ça sera sport, culture et fair play, vous voyez. Bon. Et puis, l'an passé, donc c'était un sujet sur... Nous étions en Azerbaïdjan, à Bakou, c'était un sujet sur la discrimination qui était, je dirais, presque malheureusement à la mode, quoi. Voilà.
Et pourquoi le thème donc pour Prague a été les écoles? Pourquoi le monde scolaire a-t-il été choisi?
Oui, parce que je ne connais pas forcément à fond ce qui peut se passer en termes d'éducation dans ce pays, mais j'ai cru comprendre au vu de l'intervention des principaux professeurs d'université de la République tchèque et puis les autres intervenants du terrain, on va dire comme ça, qui sont très sensibles sur l'éducation. Et ils font un gros travail et en primaire, en secondaire et à l'université. Et ça se ressent beaucoup, partant du principe qu'expliquait très clairement tout à l'heure le président, il vaut mieux faire de la prévention que de la répression, quoi. Et donc, quelque part, le fair play, c'est pas inné, ça s'apprend, ça s'enseigne. Et je pense que là, effectivement, nous, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice.
C'était donc Christian Blaro, membre du comité exécutif du mouvement européen pour le fair play et vice-président en France de l'association contre la violence dans le sport et pour le fair play. Vous pourrez entendre et lire la suite de son entretien dans une prochaine rubrique sportive. En attendant, c'est la fin de celle-ci. Merci de votre attention.
Après le sport et le fair play dans le sport, on passe à la musique avec un savant mélange de folk et de country concocté depuis un demi-siècle déjà par une formation incontournable en République tchèque. Il s'agit du Spiritual Quintet dont nous parle Alena Gebertova.
Un peu de musique quand même.
La salle Luzerna était pleine à craquer en ce début de novembre lors du concert du groupe Folk Spiritual Quintet donné en rappel du 50e anniversaire de sa création. Considéré comme le précurseur de la musique folk et comme le premier groupe folk tchèque, sa place sur la scène musicale du pays demeure inébranlable. Fondé en 1960 d'abord comme un quatuor d'hommes, le Spiritual Quintet a incorporé au fur et à mesure d'autres membres, hommes et femmes. Aujourd'hui, comme dans le passé, le nombre de ses membres est variable, mais généralement supérieur à 5. Le groupe a pourtant sauvegardé définitivement l'appellation de Quintet.
Krása růže v sádu kvetla, úbele sítky ve chvojí, ta mé milé hlavu spletla, chtěla jí mít v pokoji. Ta mé milé hlavu spletla, chtěla jí mít v pokoji.
Le Spiritual Quintet s'est imposé dès les années 60, effectuant des tournées, se produisant dans de petits théâtres et dans des cabarets de Prague, et en se présentant régulièrement au plus important festival de la musique country et folk, Porta. Certaines de ses chansons, puisant souvent dans le répertoire étranger, sont devenues de vrais tubes.
Thank you.
Les années pendant lesquelles le Spiritual Quintet a collaboré avec le chanteur Karel Zich, prématurément décédé il y a 6 ans, représentent une des périodes artistiques les plus heureuses du groupe. Je vous en propose un extrait. Le Spiritual Quintet peut se vanter d'avoir joué et chanté lors des événements extraordinaires. Par exemple, à l'occasion de la visite à Prague des 2 présidents américains George Bush et Bill Clinton. Il est aussi une des rares formations musicales qui sont montées sur la tribune pour accompagner les manifestations de la révolution de velours de 1989. Я чекам на, я чекам на, аж се к нам право гради, гради, я чекам на.
Et c'est donc avec la musique du Spiritual Quintet que s'achève le programme en français de Radio Prague. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1 y 30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.